Chapitre 103. L'horloge du palais sonnait midi. Monica Martin rassembla ses notes et se prépara à sortir sur le perron pour donner une conférence de presse. Plus tôt dans la matinée, Julian avait annoncé le décès de son père à la télévision, en direct de l'hôpital de San Lorenzo de El Escorial. Il avait parlé avec dignité et émotion du legs de son père et de ses propres aspirations pour le pays. Le futur roi avait appelé à la tolérance dans un monde divisé. Il avait promis de ne pas oublier les leçons du passé et d'ouvrir les portes au changement. Après avoir loué la culture et la grandeur de l'Espagne, il avait proclamé son amour inconditionnel pour son peuple. Monica Martin avait rarement entendu un si beau discours et n'aurait pu imaginer meilleure entrée en matière pour le nouveau souverain. À la fin de sa déclaration, Julian avait rendu hommage aux deux agents de la Guardia qui avaient perdu la vie en protégeant la future reine d'Espagne. Puis, après un bref silence, il avait annoncé une autre triste nouvelle. L'ami de longue date du roi, Monseigneur Antonio Valdespino, était décédé dans la nuit. Le prélat, très âgé, avait succombé à une crise cardiaque, sans doute trop faible pour supporter la disparition de son suzerain et les accusations portées contre lui. Cette nouvelle avait immédiatement apaisé l'opinion publique. Certains estimaient même que l'archevêque méritait des excuses. Après tout, il n'existait aucune preuve concrète de sa culpabilité et les récentes allégations pouvaient très bien avoir été montées de toutes pièces par ses ennemis. Alors que Monica se dirigeait vers les portes du palais, Suresh Bala surgit à son côté. « Te voilà une héroïne !» s'écria-t-il en trottant à côté d'elle. « Tout le monde t'acclame. Omonte@iglesia.org, grande gardienne de la vérité et fidèle disciple d'Edmond Kirsch. » « Suresh, je ne suis pas Monte, » répliqua-t-elle en levant les yeux au ciel. « Je te le jure. Ça, je le sais. Monte est bien plus retors que toi. J'ai essayé de traquer ses communications. Rien à faire. À croire qu'il n'existe pas. Continue de chercher. Je veux être sûr qu'il n'y a pas une taupe chez nous. Et dis-moi que le téléphone que tu as volé hier est de retour dans le coffre du prince, comme promis. » Monica poussa un soupir de soulagement. Elle savait que Julian venait juste de rentrer au palais. « Une dernière chose, » reprit Suresh. « On a récupéré les relevés téléphoniques. Aucune trace d'un appel au Guggenheim hier soir. Quelqu'un a dû pirater notre numéro pour ajouter Avila sur la liste des invités. Mais je ne lâche pas l'affaire. » En un sens, c'était une bonne nouvelle. Le coup de fil ne venait pas de chez eux. « Tiens-moi au courant. » La rumeur des journalistes massés dehors leur parvenait. « Apparemment, il y a un paquet de monde, » fit remarquer Suresh. « J'ai manqué quelque chose cette nuit ?»« Juste deux ou trois trucs. »« Ne me dis rien. Ambra Vidal a une nouvelle robe sexy, c'est ça ?»« Arrête !» s'esclaffa-t-elle. « Bon, c'est l'heure d'entrer en piste. »« C'est quoi le programme d'aujourd'hui ?» demanda-t-il en désignant la liasse de notes dans ses mains. « On a plein de choses à régler. D'abord mettre en place un plan média pour le couronnement, ensuite passer en revue le « Oula, c'est pas drôle ton truc » l'interrompit-il avec une grimace en obliquant vers un autre couloir. « Merci, Suresh. Moi aussi, je t'adore. » Monica passa la porte et contempla les journalistes massés au bas des marches. Jamais elle n'avait vu un tel attroupement. Elle rajusta ses grosses lunettes, prit une grande inspiration, puis descendit dans l'arène. À l'étage, dans ses appartements, Julian se dévêtait en regardant à la télévision la conférence de presse de Monica. Il était épuisé mais tellement soulagé de savoir Ambra rentrer au palais, endormie et en sécurité. Ses dernières paroles au téléphone l'avaient rempli de joie. « Julian, je suis très touché que tu me proposes de tout recommencer, juste toi et moi. L'amour est une affaire privée. Le monde n'a pas besoin d'en connaître les détails. » En ce jour sombre où il avait perdu son père, Ambra lui avait redonné espoir. Accrochant sa veste à la patère, Julian sentit un objet dans sa poche, le flacon de morphine que le médecin avait laissé au chevet de son père. Il avait retrouvé la fiole à côté de l'archevêque, vide. Dans la pénombre de la chambre d'hôpital, Julian s'était agenouillé et avait prié en silence pour les deux compagnons désormais réunis. Puis il avait glissé la petite bouteille dans sa poche. Avant de quitter la chambre, le prince avait soulevé avec précaution le visage du prélat qui reposait sur la poitrine de son père. Les joues du vieil homme étaient encore humides de larmes. Il l'avait redressé sur sa chaise, lui avait joint les mains. L'amour est une affaire privée. Le monde n'a pas besoin d'en connaître les détails.